Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Julie Devaux.
Bonjour, aujourd'hui nous nous intéressons à une pierre connue depuis la nuit des temps. Une pierre dont l'origine provient de la résine des innombrables variétés d'arbres des forêts qui se métamorphosent après une longue fossilisation. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit bien de l'ambre. Appelée la pierre de soleil depuis des siècles par les Baltes, elle a suscité diverses croyances et usages à travers toute l'Europe. Pour nous raconter l'extraordinaire histoire de cette pierre semi-précieuse, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés dans les studios de Canal Académie, Camille Coppinger. Camille Coppinger, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes fascinée par l'ambre depuis très longtemps, vous êtes même une collectionneuse passionnée par cette pierre, puisque vous venez de faire paraître chez les éditions Thalia votre livre intitulé « Ambre, mémoire du temps ». Alors racontez-nous comment vous est venue cette passion.
La passion a débuté il y a fort longtemps par le mot même « ambre ». J'étais très jeune et je lisais des romans qui étaient, évidemment comme tous les adolescents, légèrement un petit peu interdits par nos parents. Et l'un des plus célèbres s'appelait « Ambre » de Kathleen Windsor, qui avait été un best-seller après la guerre. Et le mot « ambre » m'avait vraiment... C'est déjà d'abord le mot « ambre » qui m'a fasciné. Puis quelques années plus tard, j'ai rencontré une dame qui avait un très beau collier sur elle. J'ai lui demandé ce que c'était. Elle m'a dit que c'était de l'ambre. Et je me suis souvenu du mot « ambre » qui m'avait fait rêver quelques années auparavant. Et voilà, je suis tombée dedans comme le petit insecte qui s'englue dans la résine. Je n'en suis plus sortie.
Vous avez également parcouru le monde à la recherche de l'ambre sous toutes ses formes, pierres brutes, polies, bijoux, traditionnels ou objets de musée. Que retirez-vous de ce carnet de route et quelle est la forme d'ambre qui vous a le plus marqué ?
Effectivement, j'ai beaucoup voyagé parce que, contrairement à l'idée répandue, l'ambre n'est pas seulement un produit de l'Europe du Nord. C'est-à-dire qu'on a souvent considéré que dans nos cultures, l'ambre se trouvait en Russie, en Pologne, dans les régions baltes, et puis que ça s'imitait, disons, à notre Europe. Et en voyageant, j'ai constaté, j'en ai acheté, j'en ai trouvé qu'il y avait de l'ambre partout. Dans de nombreuses régions du monde, dont la République dominicaine, qui produit un ambre extraordinaire. Mais les mines, effectivement, sont exploitées depuis une cinquantaine d'années seulement, alors que, bien sûr, elles l'étaient depuis bien plus longtemps en Europe du Nord. En revanche, l'ambre de Saint-Domingue est un ambre magnifique, légèrement bleuté. Il y a bien sûr de l'ambre au Mexique, alors sauf qu'il fait partie des traditions depuis très très longtemps, qui est un ambre un peu vert olivâtre, parce qu'on croit toujours que l'ambre est couleur cognac. En réalité, toutes les variations chromatiques appartiennent à l'ambre, du blanc le plus pur jusqu'au presque noir. Et donc, selon les régions, on trouve de l'ambre un peu verdâtre au Mexique, un peu bleu à Saint-Domingue, carrément rouge, couleur cerise en Birmanie, et puis un peu plus clair dans certaines régions de... En Lituanie aussi, à certains endroits, on trouve de l'ambre un peu plus jaune, citron. Mais de toute façon, l'ambre a toute cette gamme très intéressante à observer. Donc moi, je préfère évidemment les bijoux.
Justement, vous semblez garder un bon souvenir de la Lituanie. Pouvez-vous nous parler un peu de ce pays qui semble être un paradis pour les amoureux de l'ambre ?
Oui, parce que la Lituanie a ceci de particulier que c'est d'abord, ça a toujours été appelé le berceau de l'ambre. Toutes les routes de l'ambre partaient de Lituanie, ont été de toute cette région du Jutland et de la Lituanie. Et il y a des traditions très, très enracinées en Lituanie autour de l'ambre. Par exemple, l'ambre en lituanien se dit gintare, gintara, et c'est toujours un prénom pour les hommes et pour les femmes. Ambre, donc, est un... Alors aujourd'hui, l'ambre est devenu un prénom un peu à la mode en France, mais en Lituanie, c'est un prénom traditionnel, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. D'autre part, il y a une célèbre légende qui s'appelle la légende de Juraté Castitis, qui est une légende qui est toujours qui n'a pas disparu en Lituanie, dont on parle beaucoup. Donc, quand on va se promener le long des rives de la Baltique, dans la région de Nida, on cherche des petits morceaux d'ambre après les tempêtes pour voir si on trouve des morceaux d'ambre sur la plage rejetés par la mer. Et quand on trouve ces morceaux d'ambre, on dit que ce sont les larmes de la princesse qui n'a jamais été consolée de son chagrin d'amour et qui pleure après les tempêtes. Et ces larmes se transforment en ambre. Et je trouve que c'est une des légendes les plus poétiques qui existent. Et puis, il y a un très beau musée à Palanga, qui est le musée d'ambre le plus important d'Europe en termes de nombre de pièces. Très intéressant du point de vue scientifique. Et qui est vraiment un très joli musée au milieu d'un parc très poétique au bord de la Baltique. Donc j'ai une tendresse particulière pour la Lituanie aussi. J'y suis allée très souvent.
Alors revenons un peu sur l'histoire de l'ombre. De quand date sa première découverte ?
Alors la première découverte, on ne peut pas dire à proprement parler une première découverte. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'ombre, je suis partie de la préhistoire dans ce livre, les premières découvertes ont été faites au Paléolithique. C'est même assez loin, on a trouvé de l'ombre en France, dans les Hautes-Pyrénées, dans les Pyrénées-Atlantiques, à Istouritz en particulier, où on a trouvé une pièce d'ombre figurant la tête d'un cheval sculpté, qui est d'ailleurs au musée d'archéologie de Saint-Germain-en-Laye. On l'ignore souvent, mais on a eu de l'ombre en France. Et puis à cette époque, au Paléolithique, on en a trouvé aussi en Ukraine, en Autriche, en Roumanie, mais des grottes où on a trouvé des gouttes d'ambre sur les parois. Donc dès le Paléolithique, on a trouvé des morceaux qui n'étaient pas sculptés, bien sûr, qui n'étaient pas encore travaillés, mais qui, à part cette tête de cheval qui est au musée de Saint-Germain-en-Laye, mais tout de même, l'ambre était présente, on en a trouvé dès cette époque. Ensuite, au Mésolithique, on a commencé à trouver des pièces un peu plus travaillées, grossièrement travaillées, mais déjà avec des figures géométriques, des esquisses un petit peu anthropomorphes. Et puis, dès qu'on passe au Néolithique, là, nos ancêtres du Néolithique commençant à se sédentariser, organisent une existence avec le début des premières sépultures. Donc, on commence à voir apparaître des petites amulettes faites en ambre, anthropomorphes ou avec des motifs animaliers dont on pense qu'elles étaient portées pour probablement pour s'assurer une bonne chasse ou pour s'assurer la prospérité ou la fertilité, je ne sais pas. En tout cas, elles avaient une fonction d'amulette certainement compte tenu des motifs qui sont représentés sur ces morceaux d'ambre. C'est les premières pièces sculptées, si on peut dire.
Alors comment l'ambre a-t-il été perçu au fil des siècles ?
Il était perçu selon les époques et les cultures différemment, c'est certain, entre l'amulette du néolithique qui servait peut-être à se protéger de l'environnement ou à s'attirer les faveurs, de la nature. Et ensuite, les rosaires du Moyen-Âge, qui est toute l'époque, si vous voulez, de l'ordre des chevaliers teutoniques, qui géraient l'ambre avec un monopole très organisé et avec un profit certain. Ensuite, les fastes du baroque, donc où l'ambre a eu son deuxième âge d'or. Et évidemment, j'ai oublié le premier âge d'or de l'ambre, qui était l'époque romaine, où l'ambre a connu une mode tout à fait extraordinaire, grâce à Néron, qui s'est emballé pour la matière.
Bah justement, parlez-nous un peu de l'âge d'or de l'ambre.
Le premier âge d'or de l'ambre, en fait, démarre par chance, si on peut dire, avec Néron. Car les empereurs qui l'avaient précédé n'avaient pas beaucoup de goût pour l'art, et s'occupaient beaucoup plus de leurs intrigues familiales que du développement artistique, sous une forme ou sous une autre. Et Néron, qui avait déjà vu quelques objets étrusques en ambre, puisque le Verrucchio, qui était le pont étrusque de l'Adriatique, importait beaucoup d'ambre, qui venait toujours par ses routes de l'ambre dans un système d'échange, évidemment, de commerce important, plutôt exportant des objets de verre, par exemple des armes et des matières précieuses, et apportant de l'ambre de la Baltique pour en faire quelques objets, des objets sculptés. Mais le travail n'était pas aussi raffiné qu'il l'a été plus tard avec les Romains. Et donc Néron a vu cette matière et comme sa seconde épouse, qui s'appelait Poppée, avait une chevelure rousse qui était tout à fait rare à cette époque, il lui a dédié un magnifique poème parlant du roux de l'ambre et des couleurs de l'ambre. Et puis on a envoyé une expédition dans le nord de l'Europe pour rapporter des quantités considérables d'ambre. Et à partir de là, la mode s'est développée d'une façon extraordinaire. Les artisans... Plus que des artisans, des artistes vraiment ont commencé à travailler l'ambre différemment des étrusques, avec beaucoup plus de sophistication. Et l'ambre est apparue sous toutes ses formes, en bijoux, magnifiques bijoux, en cadeau de Nouvel An. On offrait des petits objets sous forme de fruits, de fleurs, pour assurer aussi les bonnes récoltes de l'année suivante, ou la fertilité. Des objets usuels, des petits pois cosmétiques, des talismans importants. Les gladiateurs en mettaient sous leur cuirasse pour... avant leur combat, les femmes en mettaient dans leurs cheveux, on était enterré avec ses parures d'ambre. Enfin, l'ambre prenait vraiment une place considérable dans la vie des Romains à cette époque. Et Pline l'Ancien, d'ailleurs, rapporte dans son Histoire naturelle que le prix d'une petite statuette en ambre valait bien plus d'argent que le prix d'un esclave qu'on pouvait revendre à cette époque. Donc vous imaginez l'importance accordée à l'ambre à cette époque. Ça a vraiment été l'âge d'or. Et d'ailleurs, les pièces qu'on a retrouvées ensuite et qui sont... dans les musées archéologiques d'Italie, puisqu'il y a des pièces admirables qu'on connaît peu et mal malheureusement, mais qui sont tout à fait admirables, reflètent tout à fait l'importance qu'a revêtu l'ambre à cette époque. Vraiment, et on a des pièces tout à fait bien conservées, des bijoux magnifiques, des colliers avec de l'or, de l'ambre, enfin, des pièces exceptionnelles. Voilà, le premier âge de l'ambre, c'est Rome.
D'ailleurs, dans votre livre, on voit de très belles pièces d'ambre telles qu'un échiquier, un coffret, un lustre et même un jeu de backgammon.
Absolument. Alors ça, c'est beaucoup plus tard. C'est le deuxième âge d'or, pourrait-on dire, de l'ambre. Après avoir connu une période, on va dire, austère avec les chevaliers teutoniques, on était beaucoup plus sur la fabrication d'objets cultuels et de rosaires à base d'ambre que d'objets festifs. Quand l'ambre n'a plus été, si vous voulez, l'essentiel de la production religieuse du Moyen-Âge, l'ambre est apparue dans les cours européennes, alors sous une forme tout à fait flamboyante. Et à ce moment-là, l'ambre était partout, était sur les tables avec des plats en ambre et en argent, des chopes, vous avez pu voir dans le livre aussi, des chopes magnifiques sculptées en ambre, des aiguères, des fontaines à vin, des lustres en ambre. Et sans doute, pour distraire les invités des cours royales, il y avait des jeux, des échiquiers en ambre ensuite et des backgammon, comme celui qui est au Victoria Albert Museum à Londres, qui en a été le jaquet, notre ancien jaquet, qu'on appelle backgammon aussi. Donc les jeux étaient présents, les dés. Le deuxième âge d'or était vraiment, probablement l'époque la plus raffinée en termes de travail de l'ambre.
Rappelez-nous, il y a le premier âge d'or, il date de quand ?
Rome.
D'accord, et le deuxième âge d'or ?
Le 17e. Et un petit peu le 18e jusqu'au salon d'ambre, que tout le monde connaît maintenant, le salon d'ambre qui a été reconstitué intégralement à Saint-Pétersbourg, au palais de Tsarskoïe-Selo. Qui était la 8e merveille du monde, qui avait été construit. Les panneaux avaient été imposés par Elisabeth Petrovna à la suite de Pierre le Grand, qui les avait échangés avec Frédéric Ier de Prusse contre une armée militaire pour récupérer la Poméranie. Il tombe amoureux de ces panneaux d'ambre. Frédéric Guillaume lui avait donné ces panneaux d'ambre contre une armée. Ces panneaux d'ambre sont restés à l'Ermitage pendant quelques années avant qu'ils atterrissent à Tsarskoïe-Selo, où ils ont été dérobés par les Allemands pendant la dernière guerre. Ils ont disparu, on ne les a jamais retrouvés. Et puis un jour, les soviétiques, en 1979, on était encore à l'époque de l'URSS, ont décidé de reconstruire le salon d'ambre à l'identique. Et ça a pris une vingtaine d'années.
On évoque très souvent la route de l'ambre comme étant un voyage périlleux, tout comme cela a été pour la route de la soie ou des épices. Parlez-nous un peu de cet incroyable voyage. Est-il aussi aventureux ?
Alors, il n'y a que mon imagination qui pourrait laisser penser qu'il était aventureux. Évidemment, on est tenté de le croire. On a peu d'éléments et peu d'indices pour penser qu'il était aventureux. Certainement moins, peut-être moins que la route des épices et la route de la soie, parce que la distance était plus courte, puisque au fond, les routes de l'ambre allaient du Jutland, de la péninsule du Jutland et de la Sambie, donc du nord des régions baltes actuelles, jusqu'à l'Adriatique, jusqu'à l'embouchure de l'Adriatique. Une autre route de l'ambre, plus tard, il y a eu la route romaine, et les premières routes à l'âge du bronze, ensuite la route romaine, et ensuite la route qui est partie vers le Moyen-Orient, vers Constantinople. Mais ça n'a guère été plus loin, donc vous imaginez que la route de la soie et des épices couvrait beaucoup plus de pays, et donc certainement plus aventureuse que n'était la route de l'ambre. En revanche, ces routes de l'ambre, parce qu'il y en avait plusieurs, on a réussi à peu près à les identifier assez récemment, puisque la carte qui semble être la plus sérieuse date de 1925, et elle n'a été constituée, je veux dire, qu'en étant la conséquence des objets trouvés sur tout le parcours. On a trouvé des objets en Pologne, enfin des objets dans les sépultures, évidemment, à chaque fois, un peu partout en Europe. Donc on a reconstruit, si vous voulez, les routes qui étaient probablement suivaient les voies fluviales. Ces échanges se faisaient par les voies fluviales, comme l'Elbe, le Danube, le Rhin. Et on a reconstitué ces routes. Donc hypothétiquement, on pense qu'elles ont suivi les endroits, ou plutôt qu'elles jalonnaient les endroits dans lesquels on a pu retrouver tous ces vestiges d'ambre.
De nombreux poètes ont présenté l'ambre comme une pierre magique. Pourquoi, à votre avis, l'ambre a-t-il suscité de tels mythes et légendes ?
Alors, je pense que c'est vrai que l'ambre est certainement la pierre, enfin, on va l'appeler une pierre, aujourd'hui, exceptionnellement, alors que c'est une gemme semi-précieuse, classée parmi les gemmes semi-précieuses maintenant. Mais on va dire que c'est tout de même une pierre voyageuse, une pierre qui est magique parce qu'on n'en connaissait pas l'origine. Et c'est là, pour le coup, l'imagination a beaucoup vagabondé. De temps en temps, c'était une urine de lynx. À d'autres moments, c'était des rayons du soleil qui transperçaient les vagues et qui ensuite faisaient ressortir l'ambre. Après les tempêtes, enfin, on a entendu beaucoup de l'imagination fertile nous donner des preuves tout à fait joyeuses et poétiques de la naissance de l'ambre. Je pense que c'est l'énigme de son origine qui a suscité autant de mythes. Parce qu'il a fallu quand même des années avant de comprendre que cette ambre venait de la sève d'un pin qui ensuite coulait le long des pins, se refroidissait la nuit, donc provoquait effectivement ces gouttes, ces stalactites de résine. Et ensuite, pendant des millions d'années, s'est fossilisé avant qu'elle réapparaisse sous la forme de lampes que nous connaissons actuellement. Donc je pense que le mystère de son origine a développé certainement ces mythes. Et comme c'était en plus, on voyait bien que enfin, les premières découvertes avant qu'on ouvre des gisements, c'était la mer, c'est la mer Baltique qui rejetait cette lampe qui s'était fossilisée pendant des millions d'années dans les fonds sous-marins. Je pense qu'il y avait tout lieu d'imaginer que l'ambre venait des mystères liés à l'eau, liés à la mer.
Pouvez-vous nous conter l'une de ces légendes les plus célèbres ?
Alors, par exemple, les lampes des Iliades, qui est probablement le plus connu, est un mythe qui est relaté dans les Métamorphoses d'Ovide, raconte comment Phaéton, le fils du dieu soleil Hélios, un jour demande à son père de lui laisser conduire son char céleste à travers le cosmos. Et son père, hésitant un petit peu à lui laisser quand même conduire son char, lui donne quelques conseils de sagesse. Évidemment, le jeune Phaéton n'écoute pas son père. Et dès que la déesse Aurore, le matin, lui ouvre les portes du jour, il s'élance évidemment avec son char, en allant beaucoup trop vite et en conduisant imprudemment. Et évidemment, il va très vite, trop vite. Et Artémise, la déesse de la nature, s'étonnant de voir ce char passer si proche de la Terre, alerte Hélios en lui disant « Mais mon Dieu, votre fils va faire brûler la Terre entière, arrêtez-le tout de suite. » Et Hélios, pris d'une colère soudaine et justifiée, décide de foudroyer son fils. Donc il foudroie son fils, Phaéton, dont le char et le corps tombent dans l'Éridan, dans le fleuve Éridan, aujourd'hui le Pô. Et ses sœurs, les nymphes, alertées par la mort de leur frère, viennent le pleurer au bord de la rivière. Et les dieux, considérant que ces pauvres nymphes étaient bien malheureuses, décident néanmoins de les transformer en peupliers. Et éternellement, les peupliers vont pleurer. Et donc les larmes, ces sèves qui vont couler des peupliers, sont les larmes des Iliades qui vont constituer la résine et l'ambre plus tard. Voilà le mythe fondateur de l'ambre.
Alors justement, dans les mythes et les légendes, on a l'impression qu'il y a toujours un rapport avec l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, je l'explique comme ça, il y a peut-être d'autres explications. L'explication, c'est qu'effectivement, l'ambre venant de l'eau, le premier contact qu'on a eu avec l'ambre, c'est en trouvant de l'ambre qui revenait après les tempêtes, qui remontait, donc arrachée par les tempêtes des fonds sous-marins, qui flottait à la surface de la mer Baltique et qu'on retrouvait ensuite sur les rives. Donc, c'était donc un produit marin, entre guillemets. Donc, l'origine de l'ambre pour beaucoup de nos ancêtres, c'était l'eau. Ça venait de l'eau. On ne savait pas si ça venait d'un arbre ou d'autre chose, mais enfin, ça sortait de l'eau. Donc, je crois que tous ces mythes se sont rapprochés constamment de l'eau, parce que l'ambre était quand même un produit marin, entre guillemets. Pour eux, je crois, c'est mon explication, mais je n'en vois pas d'autre. Parce que vraiment, que ce soit dans les mythes que nous avons évoqués, dans le mythe de les larmes, l'eau, c'est toujours très proche. Apollon aussi, quand Apollon est banni de l'Olympe, il part chez les Hyperboréens, il verse des larmes et des larmes et des larmes. Dans certaines légendes aussi, dans la légende de Freja aussi, qui est une légende nordique, elle pleure aussi, elle fait le tour du monde en pleurant à la recherche de son mari et en portant son collier d'ambre qui était magnifique. Et elle pleure, et toutes ses larmes aussi se transforment en or parfois. Il y a toujours quelque chose qui rappelle l'eau à travers les larmes ou à travers la mer.
Est-ce que vous pensez que ces mythes découlent en très grande partie de la mythologie grecque ?
En partie et en grande partie, oui. On a parlé d'Ovide tout à l'heure, on a parlé de Sophocle, puisque je crois que c'était lui, enfin je ne crois pas, je sais que c'est lui qui était à l'origine du mythe de Méléagre. Et certainement, oui. Oui, Ovide, Sophocle, Apollon, oui. Oui, je pense parce que c'était au moment où l'ambre, de toute façon, l'ambre était étudiée à ce moment-là. Pline en avait beaucoup parlé, Tacite en a beaucoup parlé, Homère en parle aussi à propos du collier de Pénélope. Donc on est vraiment dans la poétique de l'ambre à cette époque, grâce à la mythologie.
L'ambre a également été utilisée pendant très longtemps dans les coutumes familiales. Aurait-il réellement des effets bénéfiques ou était-ce une simple tradition ?
Alors, évidemment, on peut penser que l'effet bénéfique de l'ambre est une invention et qu'au fond, elle n'appartient à cette réputation qu'aux traditions. Mais quand une tradition dure aussi longtemps, c'est qu'il y a bien, il doit bien y avoir quelque chose. Et je vous donne l'exemple, par exemple, du petit collier de bébé qu'on met autour du cou du bébé pour calmer ses douleurs dentaires et pour éviter quand il fait ses dents de ne pas trop souffrir. C'est une tradition qui remonte à fort, fort loin. Et jusqu'avant la guerre, on mettait. Moi, j'en ai eu un. J'ai toujours mon petit collier de bébé. On mettait un collier dedans autour des bébés. Bon. Et c'était efficace. Et puis, on l'a oublié. On l'a oublié parce que les modes changent. Et puis, on a donc considéré que ça appartenait aux traditions. Et puis, curieusement, depuis une dizaine d'années, On voit des colliers de bébés qui apparaissent partout, y compris chez les pharmaciens qui en vendent maintenant. Et les gens qui n'étaient pas du tout préparés à acheter un petit collier d'or pour leur bébé, j'en entends parler de plus en plus autour de moi. En France, on a eu un petit peu de retard, mais en Suisse, en Allemagne, en Belgique, il y a déjà 20 ans qu'on remet des petits colliers d'or autour du cou des bébés. Donc cette tradition dont on a pensé qu'elle n'était qu'un petit folklore, en réalité, a certainement ses vertus bénéfiques puisque ça revient.
On dit aussi que l'ambre aurait des vertus thérapeutiques.
Alors, les vertus thérapeutiques, je préfère dire qu'elles sont supposées thérapeutiques. J'aime pas trop parler de vertus thérapeutiques parce que je ne voudrais pas que ce soit un substitut à des médicaments qui sont beaucoup plus efficaces que ne peut être l'ambre dans certains cas. Je me méfie un peu de la panacée. Vous voyez, alors qu'aujourd'hui, on a un peu tendance, d'ailleurs, il y a quelques ouvrages qui étaient sortis sur le thème d'utiliser l'ambre ou la lithothérapie à toute fin, c'est-à-dire toutes les pierres. Bon, c'est très bien d'utiliser les pierres, mais on ne peut pas les utiliser pour tout. Et je pense que pour l'ambre, c'est la même chose. L'ambre, je ne dirais pas qu'il a des vertus thérapeutiques. Je dis simplement qu'il est certain, je peux en témoigner, que porter de l'ambre tout le temps apaise beaucoup, donne de l'énergie, adoucit, je ne sais pas comment dire, quelque chose de très confortable à porter de l'ambre, je ne dirais pas plus loin, qui est très très agréable. Alors je ne dirais pas que c'est thérapeutique, mais si l'effet calmant est thérapeutique, alors il a vraiment des vertus thérapeutiques. Voilà ce que je dirais.
Il y a d'ailleurs une petite anecdote par rapport à ça. Le duc Albert de Prusse disait à Luther, lorsqu'il lui avait envoyé un morceau d'ambre pour qu'il soigne ses calculs biliaires, « Voici une bonne pierre pour chasser la mauvaise pierre ».
Oui, mais c'est tout à fait exact. J'ai raconté cette petite anecdote. Il y en a bien d'autres, parce que alors maintenant, évidemment, je viens de vous le dire beaucoup moins, mais il fut une époque où l'ambre était utilisée vraiment alors comme médecine. Et on faisait de la poudre d'ambre, on avalait de la poudre d'ambre, on mélangeait de la poudre d'ambre avec de l'huile d'ambre aussi pour soigner quelques affections respiratoires. On frottait de l'ambre pour soulager une douleur. On a même dit que, alors ça c'est peut-être beaucoup plus une tradition populaire polonaise, que porter un morceau d'ambre pour les hommes, porter un morceau d'ambre en permanence sur soi, assurait une virilité jusqu'à très tard dans la vie. Donc vous voyez, ça peut aller très loin. Mais l'ambre aussi avait aussi une valeur pour revenir aux coutumes. On s'offrait de l'ambre. Les fiancés s'offraient toujours un bijou d'ambre. Les colliers de mariage en ambre restaient dans les familles et se transmettaient de mère en fille. Ça faisait vraiment au-delà de la dot. C'était quelque chose qui était censé assurer le bonheur conjugal et familial. Donc c'est tout de même très chargé, cette pierre.
Alors, comment l'ambre se forme-t-il? Il a différentes caractéristiques. Il peut être gris, jaune ou blond, de même qu'il peut provenir des quatre coins du monde.
Alors, il peut provenir des quatre coins du monde, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure avec mes voyages où je suis allée voir l'ambre partout, Mexique, Saint-Domingue, Birmanie et bien ailleurs. Et il a effectivement des couleurs très différentes, probablement selon l'endroit où l'ambre s'est fossilisé. Comme je vous ai dit, c'est une sève liquide qui glisse de l'arbre, qui va entraîner des petites bêtes et parfois des débris de feuilles qui vont tomber au pied de l'arbre et qui va être mélangé avec de l'humus, des débris de bois, des débris de feuilles et qui va rester là et qui va se sédimenter. Alors, il faut voir aussi le voisinage de l'endroit où se trouve le gisement. S'il y a de la pyrite, l'ambre va foncer. S'il y a de la calcite, l'ambre va être un peu plus claire. Et s'il y a un peu plus de débris de feuillage, l'ambre risque de devenir un petit peu plus vert, vert foncé. Oui, donc c'est lié à l'environnement, on va dire, à l'environnement du souterrain, de l'endroit où le gisement d'ambre va se constituer.
Pourquoi y a-t-il une confusion entre l'ambre gris et l'ambre jaune?
Ça, c'est une question très importante. Il y a une confusion qui perdure d'ailleurs encore aujourd'hui entre l'ambre gris et l'ambre jaune à cause du terme ambre. Le mot ambre étymologiquement vient de alambar, qui est un mot arabe pour désigner le cachalot. Et le cachalot vivant, se promenant sur la mer comme l'ambre se promenait sous la mer pendant des millions d'années, quand le cachalot libère des concrétions, le cachalot fabrique des concrétions, parce que son estomac est attaqué par les calamars, qui est sa principale nourriture. Donc il fabrique cette concrétion, qui ensuite il expulse, et qui flotte à la surface de l'eau, jusqu'à ce qu'on recueille cette ambre, cette concrétion, qui va sécher, et qui a une odeur musquée tellement extraordinaire qu'on s'en est servi pendant très longtemps comme fixateur naturel des parfums. L'ambre jaune, qui vit enfin, je peux dire qui vit au fond dans les fonds sous-marins de la Baltique, remonte lui aussi à la surface et on va le recueillir. Les pêcheurs autrefois le recueillaient l'ambre dans leurs filets et on le rapporte aussi sur les rives. Donc ces éléments, si vous voulez, d'ambre gris et d'ambre jaune, suivent le même parcours, si on peut dire, de la mer jusqu'aux terres et jusqu'au moment où ils vont être utilisés l'un pour la bijouterie, et enfin, sur les bijoux ou les objets d'art qu'on a évoqués, et d'autres pour la parfumerie. Et on a souvent parlé de l'odeur de l'ambre. Les gens me disent, mais ça sent bon l'ambre. Non, l'ambre sent bon. Les parfums que l'on trouve aujourd'hui qui s'appellent ambre ou tous les dérivés de l'ambre, ce sont des parfums à base de cette ambre dont je viens de vous parler, qui est l'ambre gris du cachalot. Mais l'ambre jaune ne sent pas du tout l'ambre. L'ambre n'a pas une odeur de musc, c'est une odeur de pain. C'est-à-dire quand on brûle un morceau d'ambre, on sent l'odeur de pain, de résine. Enfin, il vaut mieux, sinon c'est du plastique, si on ne sent rien.
Et comment reconnaît-on l'ambre de son imitation ?
Justement, en piquant très légèrement avec une aiguille chauffée, un bout d'aiguille qu'on chauffe jusqu'à ce que ça devienne rouge, et on pique très légèrement et très délicatement près du trou d'une perle, par exemple, d'ambre, pour ne pas l'abîmer, et très bien, en quelques secondes, une odeur de pain va tout de suite se produire. Donc, vous êtes sûr que votre collier ou votre bijou est en ambre. En revanche, si la même opération avec la petite aiguille chauffée pique un tout petit peu et une odeur âcre qui se produit, âcre ou, vous voyez ce que je veux dire, forte même, dérangeante, ben c'est du plastique ou une résine artificielle. C'est un moyen absolument incontestable de distinguer le vrai du faux. Parce qu'il y a aussi la technique de l'eau salée, mais enfin c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que l'ambre véritable flotte, puisque la densité de l'ambre est à peu près celle de la densité de la mer. L'ambre flotte à la surface d'une eau salée. Donc on voit si c'est de l'ambre, sinon ça tombe au fond. Mais enfin, on ne peut pas se promener avec un verre d'eau salée en permanence avec soi.
Merci Camille Coppinger d'être venue nous présenter votre livre « Ambre, mémoire du temps ». Je rappelle qu'il se trouve aux éditions Thalia. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle émission Éclairage.